الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. بشفاعه الإسلام. Après avoir commencé donc le tafsir de Al-Mutaffifin, on avait expliqué le sens du mot fraudeur, les différents sens possibles du mot Mutaffifin. On avait vu également quel était le comportement atypique de cette catégorie donc de personnes. On avait vu la mise en garde en trois parties qu'Allah Azza wa Jal fait à ces personnes qui trompent leur prochain. Il y a tout d'abord la mise en garde contre le jour où on est ramené vers Allah. Il y a deuxièmement la mise en garde par rapport au fait que ce jour-là, c'est un jour azim, c'est un jour terrible, qualifié par Allah Azza wa Jal comme étant un jour terrible. Et on avait vu que ce jour est terrible parce que يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, parce qu'en ce jour, chaque personne sera debout, se présentera devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre des comptes. Pour toutes ces raisons, ce mawqif, cette situation, elle est terrible, elle est exceptionnelle. Et donc, Allah Azza wa Jal présente un péché et Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'annoncer les azabs, hein, les punitions, Allah met en garde, attention, à l'issue de votre vie, à l'issue de votre passage sur ce dunya, il y a un monde, c'est le monde de l'au-delà, et parmi les étapes de l'au-delà, c'est la résurrection. C'est pas comme certains voulaient laisser entendre qu'on ira tous au paradis, hein, les riches, les pauvres, les blancs, les noirs, je sais pas, hein, j'ai entendu vaguement dans quelques grandes surfaces, dans des heures perdues, une chanson qui disait, je vais pas vous faire avec l'intonation en plus, au nom de quoi, on ira tous au paradis que tout le monde connaît. Si c'était comme ça, il n'y aurait pas de différence entre celui qui a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans son cœur et celui qui a la ilaha dans son cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu. Personne qui est athée. Et au nom de quoi quelqu'un qui ne s'est pas prosterné une seule fois devant Allah accéderait au Jannah. Jannah qui a été créé par Allah, qui a été créé pour Ibadullah, les serviteurs. Ibad, c'est les serviteurs d'Allah. Et si quelqu'un ne s'est jamais prosterné, comment est-ce qu'il peut prétendre accéder au Jannah et au bienfait qu'Allah a créé de ses propres mains, Mubarak kama yaliqu bihi azza wa jalla. Qu'on entend parfois des discours d'humanisme, hein, ça c'est le grand mot, l'humanisme, la fraternité universelle, qui disent que de toute façon nous sommes tous des créatures de Dieu. Oui, nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous des frères. Non, nous ne sommes pas tous des frères. Innama al-mu'minuna ikhwa. Ceux qui ont iman, la ilaha illallah, ça c'est le lien de ikhwa. Maintenant, la personne qui n'a pas la ilaha illallah, on le respectera comme je respecte mon propre frère en islam. Mais j'aurai un devoir supplémentaire à l'attention de cette personne. Quand j'ai quelqu'un qui est déjà dans l'islam, alhamdulillah, j'ai un bon comportement, un bon akhlaq avec lui parce que c'est un proche, c'est un frère à l'islam. Maintenant, le fait qu'on ait dit hein, tout à l'heure que celui qui n'a pas la ilaha illallah dans son cœur, on ne le considère pas comme notre frère, ça ne veut pas dire que je vais le détester, qu'on ne comprenne pas le discours dans l'autre sens. Non, c'est qu'il y a une barrière. Et cette barrière, c'est la barrière du kufr. Et ce n'est pas par rapport à cette barrière-là que je vais repousser la personne. Non, bien au contraire. Je vais faire de mon mieux pour l'amener avec moi dans le droit chemin. Je vais faire de mon mieux pour que cette personne qui ne connaît pas c'est quoi la ilaha illallah, elle comprenne c'est quoi la ilaha illallah. Et ça, c'est mon devoir de ummati. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal qualifie notre Ummah, c'est-à-dire la communauté du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, on doit bien sûr répéter, hein, bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on l'entend, comme étant la meilleure des communautés parce qu'elle a eu un travail, un amal, une action que les autres communautés n'avaient pas. Un discours que vous avez maintes et maintes fois entendu, c'est un rappel nécessaire. Pour les autres, ou même les autres communautés, le prophète, le Nabi, le Rasoul, c'était lui qui était chargé de tablir al-Risala, la propagation de la mission. Mais dans la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam, chaque individu est un da'iya. Sachant qu'il n'y a plus de prophète après Muhammad alayhi salatu wassalam, chaque individu, on va dire, il va endosser ce rôle, je ne vais pas dire de prophète, mais de propagateur de la religion. Par le biais du mudhakara, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَافِرِينَ مُؤْمِنِينَ. Le mudhakara, le rappel, c'est entre ceux qui ont la ilaha illallah dans leur cœur. Ceux qui ont la foi, on fait le rappel. Parce que nous avons tous des situations de foi, de iman, qui varient. Comme le Dow Jones, le 440 qui monte, qui descend. La foi, pareil. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bi ta'a wa yanqus bil. Cheikh Ali, on vous cherchait. Hein, oui, mais un gros GSM, je dis Ali, mashallah. De plus en plus gros, barakallahu fik. Wayan qusubil ma'asiyah. La foi augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les péchés. Et ce qui est spécifique à la foi, c'est que quand on n'avance pas, on recule, on régresse. C'est pas comme un niveau stable. Ou une voiture, vous avez mis un plein d'essence, si vous ne démarrez pas la voiture, vous ne l'utilisez pas pendant 15 jours, le niveau d'essence ne diminue pas. Mais pour le iman, ce n'est pas pareil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, hein, ils pensent qu'ils sont dans le droit chemin, mais ils pensent qu'ils sont au top. Ils pensent qu'ils sont au top parce qu'ils viennent à la salah, ils s'habillent, alhamdulillah, malabis à sunnah, si on pourrait dire comme ça. Ils ont l'apparence de la sunnah sur eux et ils pensent que c'est bon. Ils ont le visa pour le paradis. Comme quelqu'un veut le faire hajj, il donne le passeport, on s'occupe, on est tralala, diplomate, et on tamponne. Quand il a le visa, c'est bon, moi je vais hajj. J'ai mon billet, j'ai mon visa, je vais hajj. Il est persuadé. Alhamdulillah. Mais la personne qui a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah de son cœur, qui vient en salat, qui fait les actions de base, elle ne doit pas se suffire de ses actions de base, en aucun cas. Et c'est le grand problème de la Ummah de nos jours. On avait abordé ce sujet ce matin, ce Jum'a, mais on n'a pas complété ce passage, on n'a pas pu l'expliquer. Le gros problème de la Ummah, même si on sort du sujet, mais on est toujours dans le sujet du din, de l'iman. Le gros problème de la Ummah, c'est quoi? C'est l'autosuffisance. Chose qui n'existait pas à l'époque des... Comment on pourrait dire ça? Un mot qui ne choque pas. Les pieux prédécesseurs. Chez les pieux prédécesseurs, on ne se contentait pas de la pratique. On essayait toujours d'aller de l'avant. Apprendre encore plus. Progresser dans la foi. Perfectionner la salat. Perfectionner le Coran. Perfectionner le saum. Augmenter la qualité du doua. Ne jamais s'arrêter dans la progression, dans les a'mal de din. De nous joindre à la salat du 1er janvier, elle est comme la salat du 31 décembre, oui ou non? Moi en premier, qu'Allah me pardonne, ce n'est pas des leçons qu'on donne, hein? C'est des mudhakara, c'est des rappels qu'on fait pour soi-même en premier. Mon tilawatul Qur'an, ma lecture du Qur'an, elle est identique de Ramadan à Ramadan. Je suis gentil, hein, je parle de Ramadan, parce qu'en dehors de l'année, parfois, pena, hein, comme il dit, les niveaux zéro non plus, Allah musta'an, d'accord? Ma salat, ma concentration, je reviens à la salat, parce que c'est vraiment le point le plus important, parce que c'est le amal qui se répète le plus. Ma salat, malheureusement, elle ne change pas, elle ne progresse pas. Ma compréhension, ma relation avec le Coran, elle ne progresse pas. Vous allez dire, c'est quoi progresser dans le Coran? Est-ce que c'est mieux lire? J'ai lu, j'ai fait mon khatm al-Qur'an avec Moussa Bintel, avec telle personne. Je lis bien, mon tajwid est correct. Je sais quand il fait irfa, quand il fait izhar, et makharj al-harouf, je maîtrise, etc. Mon tajwid est correct. Écoutez-moi lire et c'est bon. Effectivement, la lecture est bonne. Mais est-ce que le Qur'an a été révélé uniquement pour être lu, mujawwada, avec la tajwid correcte? Bien sûr, il faut le lire correctement. Il faut le lire, bien sûr. Ensuite, si on peut avoir le tajwid, on l'a, alhamdulillah, c'est l'idéal. Au plus, quelqu'un dit « Je suis hafiz al-Qur'an » déjà, ben c'est fini. Il n'y a pas plus que 30 juz. Il y a 30 juz, 36 para comme on dit. je connais les 30 par cœur. Donc c'est bon, mission accomplie. Ma relation avec le Coran, elle est complète. On ne peut pas aller plus loin. Bien sûr que si, on peut aller plus loin. Les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, lorsqu'ils apprenaient 10 versets du Coran, ils ne dépassaient pas les 10 versets sans en comprendre le sens. Méditer sur les ma'ani, sur la profondeur des versets et mettre en pratique. C'est ça, le Coran a été révélé pour être lu, pour être compris, pour qu'on médite sur le sens des versets et que, en finalité, nous finissons par vivre le Coran. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand akhluquhu al Coran. Le comportement du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, c'était le Coran. Tout ce qu'il faisait, c'était conforme au Coran. Son akhlaq, sa manière de parler avec sa femme, sa manière d'éduquer ses enfants, sa manière de se comporter avec les voisins, sa manière de se concentrer dans la salat, tout était un condensé, un résumé du Coran. Et il en était de même pour les sahaba, pour les tabi'in, pour les gens, les pieux prédécesseurs. Ils étaient tous, ils faisaient tous de leur mieux pour mettre en pratique les ordres du Coran. Et les ordres du Coran sont tellement vastes que, à part Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut prétendre avoir tout le Coran de sa vie. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une marge de progression. Donc ma relation, moi musulman du 21e siècle, à l'île de la Réunion, aux îles Mayotte, ou à Madagascar ou en France, ma relation avec le Coran ne doit pas se limiter à une simple, excusez-moi, simple c'est réducteur, mais à la lecture basse. C'est la lecture, le perfectionnement de la lecture pour qu'on ne prononce pas de manière incorrecte, changer la traduction. Mais il faut aller, mes chers frères et mes chères sœurs, vers la compréhension maintenant. Jusqu'à quand on va lire, lire et lire sans jamais comprendre. Il y avait une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. J'ai plus les termes exactement en tête. Subhanallah, j'ai lu ça il y a quelques temps. Qui dit que la logique veut que pour chaque ouvrage qu'une personne lit, que ce soit at-tib, la médecine, ou que ce soit les sciences, ou quels que soient les ouvrages que vous allez lire, la logique humaine veut que vous compreniez ce que vous lisez. Oui, non. Si vous lisez un journal, on va pas aller loin, vous lisez le journal, vous devez comprendre, sinon c'est à quoi de lire. Même si vous lisez un article tout bête, que Paris Saint-Germain a perdu 2-0 contre Marseille, non c'était le contraire, zut, etc., etc. Si vous comprenez pas, si quelqu'un il comprend pas le sens, pourquoi il lit? Quand vous êtes à l'école, vous avez un livre de biologie, d'histoire ou de mathématiques, etc. Bref, vous savez qu'il y a une leçon à apprendre. Quand vous lisez, l'être humain, quand il lit, il comprend. Autrement, qu'est-ce que cette lecture va lui apporter? Autrement, comment est-ce qu'elle va profiter de cette lecture et comment elle va pouvoir agir en fonction de cette lecture, c'est-à-dire faire son examen ou alors prendre des décisions, etc. etc. Le Coran, mes chers frères, quel péché, quel péché le Coran? Qu'est-ce qui fait que le musulman, il lit, sans jamais se demander, mais il y a plus de 6500 versets de Coran. Qu'est-ce qu'Allah il dit? Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi dans un mushaf, il y a 800 pages à peu près? Qu'est-ce qui est écrit dans tout ça? On n'est jamais été appelé par Ya Yuhalladina Amanu, le nombre de fois qu'il y a, oh vous qui avez la foi. Oui, c'est qui a la foi? C'est nous. Allah s'adresse à nous, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, à part 5 salats et les farahs du wuzu, les farahs du roussal et les 30 jours de Ramadan, c'est ça notre dîn. Est-ce que ce que nous pratiquons, c'est l'intégralité du Coran? Là, wallah, il y a beaucoup, plein de choses de le Coran, plein d'enseignements, mais malheureusement, c'est ce qui fait que nous reculons de la religion. On ne va pas vers la parole d'Allah. Et le prophète m'a dit, hadith qu'on répète, peut-être c'est la 40e fois qu'on répète. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Sha'ali. Kitabullah wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses. Restez accrochés. Restez accrochés. Vous ne serez jamais égarés. Le livre d'Allah et ma sunna. C'est-à-dire jamais égarés. Les hadithins disent que quelles que soient les époques, quel que soit le lieu, quel que soit le bi'a, comme on dit ici le Marol, l'endroit, l'ambiance qu'il y a autour de nous. On peut être dans un pays 100% musulman, on peut être dans un pays où on est le seul musulman. Mais si on reste accroché au livre d'Allah et à la sunna, et qu'autour de nous il y a plein de sources de péché, on ne sera jamais égaré parce que on suit le Coran et la sunna. Maintenant dites-moi, suivre le Coran et la sunna, il faut bien savoir qu'est-ce qui est dit dedans. At-tamassouk, le terme at-tamassouk, on pourrait dire c'est s'accrocher. Restez accrochés. On n'a pas dit taraktu fikum ma in qara'tum. Je vous ai laissé deux choses, si vous les lisez, vous ne serez jamais égaré. Non, le prophète dit, et at-tamassuk, hein, c'est comme une corde, voilà, je cherchais l'image, quelqu'un qui s'agrippe à une corde, hein, comme si qu'il va tomber dans un trou, il y a une corde, il s'attache, il s'agrippe fort. Ça c'est, wa'tasimu bi hablillah, habl. Une habl, c'est une corde. Et Moufassine dit que hablillah, c'est le Coran. Wa'tasimu, accrochez-vous à la corde d'Allah. Jami'a, tout le monde, d'accord, voilà, tafarraq. Bien que c'est ça l'image qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on comprenne. Que le Coran, c'est pas uniquement la lecture, c'est s'accrocher au verset, s'accrocher au ma'ani, au sens, et les vivre, les faire vivre dans notre vie de tous les jours. Si on ne fait pas ça, mes chers frères et sœurs, on n'avancera jamais dans la religion. Il y a beaucoup de gens qui se figurent que apprendre la religion, c'est apprendre uniquement le fiqh, les maslahs. C'est bien le fiqh, mais on apprend le fiqh qu'on a besoin. Fiqh al-salah, fiqh al-tahara, fiqh al-zakah, al-hajj, si on va au hajj, juste avant le hajj, on apprend le fiqh al-hajj. On n'a pas besoin de devenir mufti dans le hajj. Fiqh sawm, ramadan, c'est-à-dire les jurisprudences dans tous ces a'mal. Maintenant, il y a de la jurisprudence, comment on enterre un mort, comment on donne roussal. On n'est pas forcément concerné, d'accord? C'est pas ça le ilm. Beaucoup de gens, ils pensent que le ilm, c'est le fiqh. Il n'y a pas que ça. Il y a le ilm du Coran, le tafsir, et il n'y a rien de plus profond que d'étudier les versets du Coran, d'apprendre qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit à travers ces versets. Regardez même le premier verset, wa ilul mutaffifin. Si quelqu'un ne lit pas le tafsir, il ne se figure jamais que ça me concerne moi en tant que mari, ça me concerne moi en tant que père, ou alors pour une dame, ça me concerne moi en tant que maman, en tant qu'époux, etc., etc. Donc si on se limite à ça, on se serait dit que ça concerne le commerçant. Donc bon, il n'y a pas besoin que je lise de tafsir. Il y a le choc là-haut, moi même pas commerçant. Je suis fonctionnaire, ou je suis RMI, je suis je ne sais pas quoi. Je risque pas de tromper dans les poids et les mesures. Donc ça c'est pour eux. Ça c'est leur surat ça. Comme tabat yada bilahabi watab, c'était pour Abu Lahab. En sorte à Abu Lahab. C'est ton problème. Ou les mutaffifin, c'est pour ceux qui font des fraudes, c'est leur problème. Là, avec les commentaires, on se rend compte que chaque personne qui a un comportement anormal, illogique, injuste, qui demande tout, mais qui trompe son prochain, c'est un fraudeur. Je suis fraudeur avec mon client, je suis fraudeur avec mon épouse, je suis fraudeur avec mes enfants, je suis fraudeur dans mon travail, dans mes relations avec les gens. Donc, petite parenthèse de 16 minutes quand même, qui nous permet de réaliser que mes chers frères et sœurs, on a besoin d'apprendre le Coran, de comprendre le Coran. Sinon, encore une fois, on n'avancera jamais. Et quoi de mieux pour se rapprocher d'Allah que subhanallah, quelle est la présence, en guillemets, hein, le terme est inadapté, quelle est la présence d'Allah de ce dunya? C'est sa parole. On ne voit pas Allah. On n'entend pas Allah. On ne communique pas avec Allah. On ne reçoit pas de wahi. Si quelqu'un reçoit wahi, qu'il me le dise. Bilal, est-ce que le wahi vient Ali? Jaka le wahi, jaka shay. Là, il n'y a pas de wahi. La seule chose qui nous relie à Allah, c'est son kalam, sa parole. La seule chose qui nous relie à Allah, c'est ses paroles qui resteront jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un de ce dunya qui dira Allah, Allah. Et quand il n'y aura plus personne, jusqu'à ce dernier moment-là, même à l'époque de Dajjal, même à l'époque de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, ils vont tout manger. Oui, mon frère. Même quick, il n'aura plus rien, quick. Notre jeune frère, il angoisse. Il dit, mais quick, même quick, McDo, il dit qu'il parle à l'haram, il mange tout. Il va boire tous les eaux, les océans, les fleuves, tout. C'est-à-dire, un peuple dévastateur. La plus grande calamité de la création. J'allais dire des hommes, non, la plus grande calamité de la création. Tout détruire, tuer, meurtre, c'est des sanguinaires, Gog et Magog. Mais malgré ça, et le monde, c'est pas la péninsule arabe, c'est pas telle région, le monde sera plongé dans le chaos à l'époque de Gog et Magog. C'est pire que tout ce que vous avez vu de Spielberg ou de je ne sais pas qui. Pire que tout ce que vous imaginez. Mais malgré ces moments de trouble, de chaos, le Coran restera intact. Promesse d'Allah. Malgré tout ce qui peut arriver de ce dunya comme fitan, malheur, zalazil, tremblement de terre, catastrophe naturelle, ou fitna de Dajjal, l'antéchrist, ou Gog et Magog ou autre, le Coran, lui, il reste là. Il reste protégé par Allah. Parce que c'est Allah qui envoie Ya'juj ou Ma'juj, oui ou non? C'est Allah qui envoie Dajjal, lui non. Mais c'est aussi Allah qui a dit que ce Coran il est à moi ça. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. C'est Allah qui fait descendre le Coran et c'est Allah qui en garantit la protection. Donc jusqu'à ce qu'il y ait un dernier homme ou femme qui dit Allah, Allah, le Coran reste intact et présent dans ce dunya. Ensuite Allah le reprend. Il n'y a plus personne. Allah reprend le Coran, Allah reprend la Kaaba et Allah détruit ce dunya avec une violence terrible, une violence extrême. Hein, donc, quand est arrivé à la fin du monde hein? Je cherche, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé vers destruction du dunya? On est parti un petit peu loin, khair, inshallah. Donc, l'objectif, c'est qu'on réalise vraiment que, oui, on avait dit, quelle est la meilleure façon de se rapprocher d'Allah que par le biais de son kalam. Et ce kalam qui restera jusqu'à la fin des temps. Et c'est le seul lien qui nous reste avec Allah. On n'a plus un prophète parmi nous qui reçoit le wahi. Ou un prophète qui, lorsqu'on le pose une question, il vous dit, je vais réfléchir, j'attends la réponse d'Allah inshallah, et un jour ou deux jours après Allah lui envoie la réponse, le wahi verset, et qu'on a la réponse. Il n'y a plus ça. Le seul lien qu'on a avec Allah azza wa jal, c'est le kalam, c'est sa parole. C'est pour ça que la meilleure façon de se rapprocher de lui, de comprendre tout ce qu'Allah veut nous faire comprendre, c'est par ce lien, le hablullah, la corde d'Allah qui est le Coran. Donc le verset qu'on a lu aujourd'hui, on a lu ce soir, c'était oui, le verset 7, à partir de 7 jusqu'au 17. Kalla, inna kitab al-fujjar la fi sijil. Voilà. Donc après avoir annoncé cette catégorie, quelle est cette catégorie de personnes, les mises en garde et la mise en garde contre la résurrection lorsque les gens seront présentés devant Allah, maintenant Allah Azza wa Jal va donner les deux cas de figure, comme c'est le cas très souvent dans les verset de le Coran en général et dans les petits sourates, dans les petits versets, dans les petits sourates du Coran comme la plupart des sourates de Amma, souvent il y a l'exposition des deux cas de figure en commençant par les gens qui ont fait du mal, les gens qui étaient dans le mauvais chemin, et ensuite, et avec donc description de leurs actes, la destinée qui leur est réservée, et ensuite il y a le targhib, l'annonce de bonnes nouvelles. Allah parle ensuite des gens al-abrar, ou les gens de droite, les muqarrabin, etc. Et Allah Ta'ala va dire qu'est-ce qu'il leur a réservé. Donc on commence par les gens qui étaient dans l'erreur. Kalla, inna kitab al-fujjar ila fi sijjin. Non, mais en vérité le livre des libertins, le terme libertin, bon, c'est-à-dire les pécheurs, hein, les gens qui étaient dans la perdition, qui cherchaient toujours les plaisirs de ce dunya et qui ne se préoccupaient pas de la akhirah, de leur iman. Donc non, mais en vérité le livre des libertins sera dans le sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Et qui te dira ce qu'est le sijjin? Kitab marqum, un livre déjà cacheté. Oui, malheur ce jour-là aux négateurs qui démentent le jour de la rétribution. Donc, avant d'aller plus loin, on commence par Kalla inna kitab al-fujjar ila fi sijjin. Fujjar a été traduit, comme on l'a dit tout à l'heure, par les libertins. Le fujjar, le singulier, c'est singulier, Ali. Si vous avez bien suivi les cours d'arabe. Fujjar, fa'al, son nom singulier c'est fa'il, fajir. Le fajir, c'est comme le fasiq. Le fajir, c'est comme le fasiq. Il y a dans les péchés, tout comme dans les bonnes actions, il y a différents degrés, d'accord? Dans les péchés aussi, il y a différents niveaux. Il y a une personne qui fait un péché une seule fois, demande tawba, il s'arrête. Et puis il y a quelqu'un qui, malheureusement, hein, il est dans le fisq, il est dans les péchés endurcis, il les répète, il n'arrête pas, il demande pas tawba. Ça c'est le fasiq. Le fajir, c'est la personne qui recherche toujours les plaisirs, ça peut être les plaisirs charnels ou autres, mais c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche des maladates, qui suit ses instincts, qui suit ses désirs. Et quand on dit qu'une personne suit ses instincts, c'est pas que mon instinct me dit j'ai faim, je mange. C'est pas ça le péché. C'est-à-dire que quand mon instinct me dit quelque chose, je l'obéis sans me soucier des limites. Et c'est ça l'innéité du din, le fitra. Que c'est pas qu'Allah empêche à l'être humain de suivre ses instincts. Non. Parce qu'il y a les instincts de manger, boire, dormir, avoir des rapports charnels. Nous sommes des insan, des êtres humains. Donc Allah nous permet de faire tout ça, mais en respectant les limites qu'Allah a fixées. C'est-à-dire canaliser ses instincts pour qu'on reste dans le droit chemin, tout en respectant bien sûr hein, les besoins de l'être humain. Donc ces gens-là, Inna kitab al-fujjar ila fi sijjin, le livre des fujjar, des libertins, sera dans le sijjin. Il y a deux tafsirs de par rapport au terme hein, le livre des libertins, hein, d'accord. Quand on parle de livre, il y a deux tafsirs entre le tafsir qu'on utilise Ibn Kathir al-Qurtubi et al-Fakhr al-Razi, hein, c'est à peu près les tafsirs qu'on a essayé de comparer pour faire une synthèse des ara, des opinions sur le kitab. Certains mufassirines disent que kitab c'est le kitab ul-a'mal, le livret des actions, le livret des actions de ces gens là Et il dit que le livret des actions des pécheurs endurcis, des, comme ils disent ici, des libertins, sera avec les livrets des shayatines. Pareil, au même niveau. L'autre tafsir, qui est repris par hein, l'auteur hein, dont on suit le tafsir, c'est Ruhul Kuffar, c'est l'âme des Kuffar. Kitab, dans le sens de Ruh, l'âme. Et comme Dalil, le Mufassir apporte le récit, Hadith de Al-Barra ibn Azib. Hadith très long et très connu dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam explique comment l'âme quitte le corps, comment l'âme, le ruh, quitte le corps d'un être humain et monte aux cieux. Et il distingue l'âme du croyant et l'âme du mécréant, du pécheur endurci, de celui qui était dans le mauvais chemin. Il dit que là on est dans l'autre partie du hadith qui parle des mauvaises personnes hein, qui sont dans l'agonie. Et quand l'âme va monter au ciel, Allah Ta'ala va dire Uktubu kitabi abdi, yani al-kafir, fi sijjin, fi l'ardi sabi'ati soufla. L'âme est retournée dans, au plus profond des abîmes de la terre. Alors que l'âme du mu'min, l'âme du croyant, monte aux cieux. Et à chaque ciel, il demande, les anges demandent à qui appartient ce ruh, et il l'accepte parce que c'est l'âme d'un croyant qui est embaumé, qui sent bon, et l'âme accède aux différentes étapes. D'accord? Tandis que l'âme du kafir billah, dès la première étape, elle va échouer. Dès la première étape, lorsque l'âme quitte le corps pour s'élever, l'âme n'accède pas aux cieux et l'âme est rejetée immédiatement au plus profond des abîmes de la terre. Donc ça c'est le sens de l'opinion de certains mufassirines qui disent que qu'Allah inna kitab al-fujjari, c'est le ruh des kuffars qui sont rejetés dans le sijjin. Et voyez, il y a des fois où on admire les gens, hein, telle personne qui est un footballeur, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de succès, qui a telle chose, on est admiratif, on aimerait être comme lui, on aimerait s'habiller comme lui, on aimerait avoir la même voiture que lui, on aimerait faire avoir la même coiffe, hein, prendre un petit rasoir, rase de petits morceaux, tu es là pour faire comme qui on sait, etc., etc. On admire telle personne, tel acteur, tel je ne sais pas quoi, mais il n'a pas la ilaha illallah. Donc au nom de quoi il serait admiré? Au nom de quoi on va le contempler? On va le prendre comme exemple alors qu'il n'a pas la ilaha illallah. C'est-à-dire que quand il quitte ce monde, déjà quand il pratique plus son sport ou machin, on ne le connaît plus. Après la retraite, il n'est plus aussi intéressant qu'avant. D'accord? Mais la première étape, quand son âme, son ruh quitte son corps, il arrive aux cieux, son ruh est rejeté par Allah. Est-ce que là aussi on va l'admirer? Est-ce que là aussi on aimerait être comme lui? Ou alors à ce moment-là, moi, musulman, jeune musulman de 17, 18, 19 ans, toute ma vie j'ai admiré telle personne, j'ai fait tout comme lui. J'ai essayé d'être comme lui. Mais et j'ai vécu comme lui réellement. Mais lorsque je meurs et que je me suis écarté de la sunna, de Al-Habib, alayhi afdal salat wa tamu taslim, et j'ai préféré suivre d'autres mouvements, les gens de ce dunya, lorsque mon âme monte au ciel, et si par malheur mon âme est rejetée, est-ce que là je ne vais pas regretter que j'aurais dû suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, être dans le droit chemin pour qu'Allah m'accepte, et non pas vivre comme un kafara, non pas vivre comme quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne croit ni en Allah, ni au paradis, ni en enfer, ni au retour auprès de lui, ni à la résurrection, ni à la mort même, rester dans l'insouciance. Mes chers frères, il faut qu'on comprenne bien. Hein, on passe d'étape en étape. De ce dunya, les années s'enchaînent. Les événements s'enchaînent. On vit des moments parfois difficiles avec ce qu'on appelle la crise. La crise qu'ils ont eux-mêmes provoquée. D'accord ? On vit des situations complexes. Ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan, je ne sais pas moi, dans notre environnement dans laquelle nous vivons. Mais tout ce qu'il y a comme événement de ce dunya ne doit en aucun cas nous faire oublier qu'il y a un jour un retour auprès d'Allah. Alors que très souvent, quand on est dans cet engrenage de dunya, quand on parle de cercle vicieux, on tourne, on tourne, on tourne, on ne s'en sort pas. On passe de problème en problème. Quand le cœur est plongé dans le dunya, ben il ne voit que le dunya. C'est-à-dire que quand le cœur, on vit dans le dunya, notre corps est dans le dunya, mais que le cœur est orienté vers là-haut, ben même s'il tourne comme si on était une machine à laver, hein, on est en train de virer, tourner sur nous-mêmes, mais le cœur est orienté vers là-haut, on sait que de toute façon, ça va s'arrêter ça. Il y a des difficultés. Il y a des problèmes, mais en aucun cas ces problèmes ne doivent me faire oublier l'au-delà. Parce qu'autrement, je perds les deux. J'ai perdu mon dunya, j'ai vécu comme un pauvre diable malheureux, et je perds mon akhira. Parce que je n'aurais rien fait pour le akhira. J'étais dans les problèmes du dunya, je me suis préoccupé que du dunya. Comment je m'en sors? Comment trouver une solution? Comment trouver un travail? Je vais passer un entretien d'embauche, il y a une dame qui... une maman hein, qui nous avait demandé cette question, dit voilà, je passe un entretien d'embauche et voilà, l'employeur me dit que bon, la seule condition, vous avez les qualifications et tout, hein, barakallahu fi, Allah yahdi, c'est une soeur une soeur comorienne hein, qui vient nous voir, dit voilà, elle porte son châle, elle porte, alhamdoulilah, bien comme il faut, mais elle a besoin d'un travail, elle a besoin. Vous connaissez sa situation, elle a besoin. Elle dit que, Moïssa, est-ce que par rapport au travail, j'ai rien, j'ai pas d'entrée d'argent, est-ce que l'employeur me dit que il m'embauche, mais à condition que quand je travaille, j'enlève mon foulard, mon châle. Est-ce que c'est autorisé? Il y a ukhti taqillah. Est-ce qu'on peut découvrir notre satar? Est-ce qu'une dame peut découvrir ce qu'Allah a ordonné de couvrir? Et comment on peut espérer la baraka, la bénédiction d'Allah? C'est des situations difficiles, oui. C'est des situations complexes. Mais si pour gagner notre dunya, on brade notre din, on aura perdu khasira dunya wa al-akhirah. On a perdu les deux. Celui qui brade, qui vend son din pour avoir le dunya, il a tout perdu. Il perd son dunya parce que même s'il gagne de l'argent, il va gagner 2000 euros par mois, allez, on va dire. Il va faire quoi avec ça? Il ne trouvera aucun maladda, aucun baraka, aucun plaisir, aucune bénédiction de ces biens-là parce qu'il y a eu désobéissance à la base aux ordres d'Allah. Donc l'être humain ne jouit pas de ce qu'il a. Et dans l'au-delà, il a fait passer le dunya, il a fait passer ses besoins avant le dîn d'Allah. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, toutes ces difficultés qui existent, et il y en a, Allah musta'an, on les vit, on les affronte. Ce sont des ibtilas, mais en aucun cas, cela ne doit nous faire oublier le retour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est plus facile de dire que de le faire, mais on s'accroche à ça. On garde, et ça c'est un espoir ajib ça. Même une personne qui a des épreuves terribles, comme des problèmes de santé énormes, il ne s'en sort pas. Imaginez que la personne qui n'a pas iman, qui ne croit pas en l'au-delà, qui ne croit pas en Allah, à 25 ans on lui annonce que vous avez un cancer, vous avez tel problème, se dit que ma vie est foutue, c'est fini, je suis malheureux, je suis malchanceux, il n'y a plus rien pour moi. Et que voilà, le cancer généralisé, qu'on va vous faire de la radiothérapie, puis de la chimiothérapie, puis telle chose, et vous allez souffrir pendant 5-6 ans, vous allez rester alité, et puis je ne pense pas que vous allez dépasser 27-28 ans. C'est quoi sa vie? Qu'est-ce qu'il a encore de plaisir? Quels sont ses amal, son espoir? Il n'y a plus rien, parce qu'il n'a pas la ilaha illallah de son cœur, il ne croit pas, il ne sait pas qu'il y a l'au-delà. Le même cas de figure, quelqu'un qui a la foi de son cœur, il sait que, de toute façon, je vais mourir à 27 ans. Quand je meurs, je sais quoi, qu'est-ce qui se passe? Je retourne auprès d'Allah. Et Allah, il est juste, adl, hakim, il est sage. Allah, il sait qu'il m'a envoyé cette épreuve. Et donc, Allah va me récompenser pour l'épreuve. Parce que quand on est éprouvé par Allah, Allah efface vos péchés et augmente votre grade. Et le hadith dans lequel le prophète عليه الصلاة والسلام dit: "Ma yazalu al-bala'u bil-'abd al-mu'min hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ard wa ma 'alayhi min khati'ah." Lorsqu'Allah éprouve quelqu'un en permanence, Les anges effacent tous les péchés du quotidien de cette personne. Jusqu'à ce que cette personne-là, elle vit dans ce dunya. Le hadith dit que la personne marche sur cette terre, elle n'est pas consciente, elle ne sait pas « ma alayhi min khati'a », il n'y a pas le moindre péché inscrit dans ce livret de compte. Même si la personne fait un péché, le péché est immédiatement effacé à cause de, à cause des épreuves. Et quand cette personne retourne auprès d'Allah, et qu'on va analyser, vous vous rappelez le surah qu'on avait fait avant, la remise des livrets de compte. La personne reçoit son livret de compte, il croit que bon, il y a des péchés et tout, il regarde les pages des péchés, fardé. Il n'y a pas un péché. Dites-moi, est-ce que ce ne sera pas lui l'homme le plus heureux de l'au-delà? C'est comme quelqu'un, je ne sais pas, votre patron vous dit, ou alors vous allez vous retourner des vacances, après un mois, vous allez dans votre boîte aux lettres, il y a facture SFR, il y a facture de l'eau, il y a facture électricité, il y a facture le gaz, il y a facture des impôts, il y a, etc., etc. D'accord? Vous savez. Et vous ouvrez la boîte aux lettres, il y a un grand papier qui dit, monsieur, ce mois-ci, le Père Noël est passé, le Père Noël, d'accord? C'est un parti politique, là. Et que vous n'avez aucune facture. Comment il est content? Il est heureux, j'ai rien à payer. La personne, il sait qu'il a fait des erreurs de ce dunya, et il sait que quand le livret de compte va lui être remis, il sait qu'il y aura des erreurs, il va voir des péchés et qu'il aura à rendre compte. Mais quand il analyse son livret de compte, parce que, dis bien, les versets disent bien que, subhanallah, le verset ne me revient pas là, on sait tout dans le 15e juz, la ilaha illallah, que chaque, kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi, wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura, iqra kitab, iqra, lis toi-même, iqra qu'avait dit Ali, qara'a yaqra'u, iqra, lis, iqra kitabak, lis ton livre, kafa bi nafsika al-yawma alayka, c'est toi-même qui est ton propre juge. Il lit son livre, il croit qu'il va voir des péchés, plein d'erreurs qu'il a fait dans sa jeunesse et autre chose, se rend compte que tout a été pardonné par Allah et qu'il n'y a plus aucune trace. Ça, c'est parce qu'il a été éprouvé. Et ça, c'est parce qu'avec l'épreuve, il avait la ilaha illallah dans son cœur. Donc, mes chers frères, avoir le cœur orienté vers l'au-delà, ça vous permet de vous en sortir dans toutes les complications, toutes les situations difficiles de la vie. Dites ça à nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, qui ont iman de leur cœur, que ne t'inquiète pas, oh mon frère, ma sœur, oh mon père, ou mon grand-père, ou oncle, tu es dans la souffrance, mais tu retournes auprès d'Allah de toute façon. Et ces souffrances-là, grâce à ça, Allah il pardonne tes erreurs. Que tout le monde a compris des erreurs de ce dunya. Et Inch'Allah, quand tu retournes auprès d'Allah, il n'y aura plus rien. Et le même, dans la même chambre, le lit d'à côté, il y a quelqu'un qui souffre de la même chose. Il n'a pas la ilaha illallah dans son cœur. Pour lui, ses épreuves ne lui apporteront malheureusement rien du tout. Ce dunya, ses souffrances, le akhira, ses souffrances. Vous dites que c'est dur, c'est injuste. Mais ce n'est pas nous qui décidons ce qui est juste et qui est injuste. C'est Allah qui décide. Mais si vous avez la ilaha illallah, levez les mains et remerciez Allah. Levons les mains et remercions Allah qu'Allah nous a donné ce iman qui nous donne la garantie, incha'Allah, d'accéder au jannah, d'accéder au paradis. On va continuer encore 5 minutes, incha'Allah. Alors donc, l'autre tafsir, c'est l'âme des mécréants. Donc on a dit que leur âme est rejetée dans la septième couche de terre la plus profonde. Et on avait dit que la première étape même, ils ne l'ont même pas franchi. Le ruh ne peut pas aller vers les cieux parce que il n'y avait pas la lumière de la ilaha illallah dans leur cœur. Maintenant, dans le sijjin, on a vu que le livre des libertins, des fujjars, sera dans le sijjin. Et là, Allah Azza wa Jal pose la question, « Wama adraka ma sijjin ?» Et qui te dira ce qu'est le sijjin? Les mufassirines disent que ça c'est une question, les ta'zim, pour qu'on comprenne bien que le sijjin, c'est quelque chose de terrible. Le sijjin, hein, ça vient du mot sijjin, la prison, hein, c'est donc en rapport avec l'étroitesse du feu de l'enfer. Et donc la question, c'est pour qu'on comprenne bien que l'endroit où l'âme de ces koufars va aller, c'est un endroit qui est terrible. D'où la question, « Wama adraka ma sijjin ?» Et qui te dira ce qu'est le sijjin? On retrouve la même façon d'interpeller quand c'est quelque chose d'énorme, que l'yawmin azim. Quand on parle de yawmin azim, Allah qualifie ce jour d'un jour terrible. Et là, Allah, il donne la description, il fait comprendre que la description de ce sijjin, c'est quelque chose de terrible, parce qu'il interpelle celui qui dit, et qui te dira ce qu'est le sijjin? Bien, c'est quelque chose de terrible, en rapport donc avec le jahannam. Kitabun marqoum, un livre déjà cacheté. Marqoum, yani maktoub. ainsi le taqdir de ces gens. Et les ulama disent que c'est le taqdir, c'est ce qui a été écrit, hein, qu'ils allaient faire comme action, en fonction bien sûr de leurs agissements. يعني مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص. Rien n'est rajouté, rien n'est enlevé non plus de ce livret. ولا يبدل ولا يتغير. Et ça, c'est donc leur destin. Et bien sûr, leur destin en fonction de leur choix, en fonction de leur décision. Et on va voir avec le ayah, si on peut le faire ce soir, qu'Allah balrana, ce verset-là, c'est vraiment le lien entre les actions et le destin. Quand beaucoup de gens, parfois, ils se disent que si tout a été écrit, si tout a été prédestiné, ça sert à quoi de faire les actions ? Et ce verset nous fait bien comprendre la relation entre la décision que je prends en sortant de cette mosquée et ma position dans l'au-delà, paradis ou enfer. En sortant de cette mosquée, si je décide d'aller chez moi et dormir tôt pour faire Qiyamul Layl, le soir, etc., c'est un choix. Si en sortant de cette mosquée, c'est bien sûr, il n'y a personne qui fait ça, et je me décide d'aller boire avec des amis une bière à tel endroit, ou d'aller en boîte de nuit, ou d'aller, etc., etc., c'est également mon choix. Et par rapport à ce choix-là, je choisis, je trace, je construis ma future demeure dans l'au-delà, soit le paradis, soit l'enfer. Mais on verra par la suite, Inch'Allah, ce verset qui est un verset clé pour comprendre le taqdir, la complexité du destin. Kitab ou Marqoum, on terminera avec ce dernier verset. Wailun yawma idhil lil mukadhdhibin. Mise en garde. Comme tout à l'heure, il y avait une mise en garde. Attention, vous qui faites des erreurs, vous qui trompez, vous qui êtes injuste dans votre comportement, dans votre manière d'agir, n'oubliez pas qu'un jour vous serez ramené vers Allah. Un jour terrible lorsque vous serez tous debout devant Allah. Mise en garde. Et là aussi, il y a mise en garde contre ces fujjar, les gens qui cherchent que les shahawat, que les plaisirs, que le haram, qui ne se soucient jamais des ordres d'Allah. Attention, mise en garde, malheur ce jour-là au négateur. Malheur ce jour-là au négateur. Négateur, ça vient de la négation. Celui qui refute, hein, qui refuse quelque chose. Et il refusait quoi ? Alladina, le verset explique. Lil mukadhibin. Mukadhibin de quoi ? Alladina yukadhibuna biyawmiddin. Qui démentent le jour de la rétribution. Quelle était l'erreur de ces gens-là ? De ne pas croire au jour du Qiyam, du mahshar, du hisab, le jour où on retourne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire au début on parle, attention, un jour vous retournez auprès d'Allah, et là Allah met en garde contre les gens qui ont mal agi, les gens qui étaient toujours dans le mauvais chemin. Et le problème, qu'est-ce qui fait qu'ils étaient et qu'ils restaient dans le mauvais chemin? C'est qu'ils n'avaient pas la foi sur Yawmiddin, le jour des comptes, le jour où on retourne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama, rahimahumullah, les ulama de Aqida, ils disent que, parole magnifique, لا يستقيم على شريعة الله إلا من آمن بيوم الدين. Personne ne peut rester dans le droit chemin, suivre la sharia, les ordres d'Allah, tant que intérieurement elle ne croit pas, et ça c'est moi qui rajoute, dur comme fer, avec conviction, au jour des comptes. Je répète, personne ne peut rester avec istiqama, droiture constante de le droit chemin, tant que la personne ne croit pas avec conviction qu'elle retournera un jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on avait dit également, quand quelqu'un est dans le péché, rappelez pardon, à cette personne que, attention, un jour, mon frère, on retourne auprès d'Allah, qu'est-ce que tu vas dire? Et ça, cette manière de s'adresser au pécheur, excusez-moi, je dis pécheur sans porter de critique, hein, trop violente avec la personne. Quand vous dites cette parole à une personne, c'est pas violent, c'est pas agressif. Par exemple, je vois quelqu'un en train de, avec une fille, hein, de le haram, de le zina, tient sa main en train d'embrasser, etc. Je veux dire que, ya akhi, tu es dans le zina, c'est l'adultère, ton âme est en train de quitter ton corps, t'as pas honte, tu meurs là sans iman, c'est agressif, oui ou non? C'est agressif. Même si on lui dit en privé, pas devant la fille ou quel que soit le péché, on va dire que oui, mais tu es d'un péché, tu es fasiq, tu as pas honte, tu fais des trucs comme ça et tout, la personne peut le sentir comme une agression. Tandis que si vous dites calmement à la personne, même la première chose, si vous le dites calmement, c'est une agression. Mais si vous dites à la personne, mon frère, un jour quand Allah va nous ressusciter, quand toi et moi on sera à côté devant Allah, moi, je ne vais pas être questionné sur le péché là. J'ai pas fait zina. Voilà, j'ai pas bu d'alcool. Mais par rapport à ce que tu viens de faire, quand Allah va te demander pourquoi tu as consommé de l'alcool, pourquoi tu as été avec telle personne, tu vas dire à quoi, mon frère? Moi, wallahi, je t'aime en Allah. Je me fais du souci pour toi. et j'ai autant de préoccupations pour toi que j'aurai pour un proche. Vous voyez, si on aborde quelqu'un de l'erreur de cette manière, ça touche son cœur. La personne voit qu'on va le voir, pas parce qu'on se sent fundi, mufti ou alim ou autre chose, parce qu'on se, on le considère comme notre frère. Et on l'aime comme notre frère. C'est ça aussi, aimer son prochain en Allah. Al-hubbu fillah. C'est ça aussi, namal mu'minuna ikhwa. C'est pas juste que c'est mon camarade, allons manger au restaurant ensemble, mange pizza ou il paye, namal mu'minuna ikhwa. C'est pas ça. C'est que je me soucie de la personne, je me soucie de son destin, je me soucie, de ce qui lui arrivera dans l'au-delà. Tout comme, vous avez une personne, l'exemple qu'on a déjà cité avant, quelqu'un qui habite un endroit retiré, il ne connaît rien. Il dit que j'ai fait une radio, un scanner, un appareil, je suis rentré dans l'appareil. En sortant, le docteur dit, tu as une tumeur, il faut traiter. Il dit, ah, c'est rien ça. Il a dit, je vais prendre une tisane, ça va aller. La personne ne sait pas c'est quoi. Il habite, je ne sais pas dans quel endroit, quelle région, il ne connaît pas. Mais si vous aimez cette personne, vous avez un lien avec cette personne, vous allez laisser. Il dit que non, mais c'est sa vie. Hein. Écoute, chacun son chemin, chacun choisit sa voie. Nous sommes des hommes libres et égaux, et que chacun fait ce qu'il veut. D'accord ? Là, Wallah, il dit que tu es malade. Avec ça, tu vas mourir. Dans un mois, tu meurs. Ta femme sera veuve. Tes enfants seront orphelins. Ils ne verront plus jamais leur père. Va dans l'hôpital. Va faire tel examen. Va faire telle chose. Tu as besoin de te soigner. Ça se soigne de nos jours. Il y a de l'espoir. Si tu te laisses aller, etc. On se préoccupe. Parce que nous savons c'est quoi les conséquences de cette maladie. Mais pour le akhirah, mes chers frères, quand on voit quelqu'un de l'erreur, on doit lui faire le rappel et avoir souci fikar pour cette personne qu'on doit le ramener. Et donc la meilleure façon d'interpeller une personne, c'est de dire que mon ami, mon frère, un jour on retourne auprès d'Allah, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Moi, qu'est-ce que je vais dire à Allah s'il me demande pourquoi est-ce que je n'ai pas rappelé à Ishaq, à Ibrahim, à Mohammed que ça c'était le péché? Et là je te fais le rappel, quand Allah va te dire qu'Ibrahim t'a dit et tu es resté dans l'erreur, qu'est-ce que tu vas répondre? Ça c'est quelque chose qui touche le cœur de la personne. Donc là, le péché de ces gens-là, c'est qu'ils ne croyaient pas en ce jour où ils retournent auprès d'Allah. Et les ulama disent que celui qui veut rester dans le droit chemin, rester ferme dans la charia d'Allah, il ne pourra le faire qu'en ayant une foi complète, une conviction totale, permanente, sur le jour des comptes lorsqu'il retourne auprès d'Allah. لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ, c'est-à-dire celui qui ne croit pas au jour de la résurrection, وَإِنَّمَا آمَنَ بِالْحَيَاةِ فَقَطْ, mais la personne croit uniquement à la vie de ce monde. Et en général, c'est ça. En général, celui qui ne croit pas en l'au-delà, c'est qu'il croit uniquement à cette vie. Que l'objectif, c'est de bien vivre ici, c'est de profiter de sa vie jusqu'au dernier souffle. Et ces gens-là, ils ne croient pas en l'au-delà. Alors donc, celui qui ne croit pas en l'au-delà et qui croit uniquement à ce dunya, فَهُوَ لَا يَهْتَمُ بِمَا وَرَاهَ, il ne se souciera guère de ce qu'il y a après cette vie. Parce qu'il n'y croit pas. وَلَا يَعْمَلُ لِذَلِكَ, et il ne fera aucune action, aucun amal pour cette vie après cette vie du dunya. Et là, c'est grave. وَإِنَّمَا يَبْقَى كَالْأَنْعَامِ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, en reprenant le verset du Coran, mais dit que la personne qui vit pour ce dunya et qui ne se fait aucun souci pour l'au-delà, ben il vit comme un animal. Le terme est cru, mais c'est le verset du Coran. كَالْأَنْعَامُ, manger, boire, plaisir charnel. Bas, manger, boire, gagner plus, pour mieux vivre, pour plus manger, pour plus boire et avoir plus de chances d'avoir plusieurs partenaires pour les plaisirs charnels. Puis donc c'est quel an'am sans but. L'animal a été créé, il est là pour ça, il mange, il boit et il remplit sa mission parce qu'il est là pour soit pour donner du lait, soit pour labourer les champs, soit pour faire etc. etc. Il faut faire respecter un cycle de vie. Ben, c'est ça son travail. Pour ça, il a été créé. Ben, l'être humain qui vit dans ce milieu sans avoir un regard sur l'au-delà, ben, sa vie est exactement comme la vie de an'am, un animal qui n'a aucune conviction, qui n'a aucun espoir. Parce que vous savez que les animaux n'entrent pas au paradis, ni ne vont en enfer. Donc pour eux, c'est la vie pour laquelle Allah les a créés. Donc la personne, malheureusement, qui ne se soucie ni du paradis ni de l'enfer, ben, sa vie se résume à ça, aux besoins primaires. Il dit que Wallah et que Allah, on va continuer en français, souvent, la plupart du temps, lorsqu'Allah parle de Al-Iman ou Bihi, Allah parle de Al-Iman bil Yawm al-Akhir. Quand Allah parle de la foi en lui, Allah rajoute immédiatement après la foi en l'au-delà. Et ça, on expliquera la prochaine fois, Inch'Allah, que ce sont là deux choses qui marchent ensemble. Très souvent dans les versets, quand on parle, le verset qu'on a déjà dit l'autre fois, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. Le birr, le droit, la droiture, c'est celui qui croit en Allah et qui croit aux joies de l'au-delà, qui croit à la résurrection, le akhirah. Les deux sont cités les uns après les autres, l'un après l'autre, très souvent, parce que celui qui veut rester dans le droit chemin, il faut que devant, il sait qu'il y a l'au-delà. Si quelqu'un ne croit pas en l'au-delà, il ne pourra jamais être sur le droit chemin, il n'éprouvera même pas le besoin de s'éloigner de l'interdit, ni de faire les bonnes actions. Qu'est-ce qui fait que demain, Anwar, Bilal, Issa, Ali, etc., etc., qu'est-ce qui fait que tous ces gens-là, quand ils vont dormir ce soir, ils vont régler leur réveil pour Fajr? Qu'est-ce qui fait que? C'est qu'ils ont iman en l'au-delà. En retour auprès d'Allah, ils ont l'espoir du paradis. Oui, non. S'il n'y avait pas de paradis, s'il n'y avait pas d'au-delà, on serait réveillé Fajr demain? Non. Ces gens-là sont des fonctionnaires. Ils ne travaillent pas le samedi, alhamdoulilah. Donc, ils se réveillent 10 heures. 10 heures, comme Kal An'am. Hein, ils se lèvent, ils mangent, ils boivent, ils profitent de la vie. Non. Ce qui fait qu'on se réveille pour le Fajr, je suis là à la salat de Fajr, c'est que j'ai espoir en Allah et j'attends qu'Allah m'accorde le paradis en échange, on pourrait dire, de ses bonnes actions. Donc Allah donne tawfiq de comprendre la relation qu'il y a entre mes a'amal et l'au-delà pour mieux faire les bonnes actions. Plus on croit en l'au-delà, mieux on fera les actions, plus on sera concentré dans la quantité et la qualité. Qu'Allah nous accepte, donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de propager à nos mères et à nos sœurs. Donne tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendant les vacances du mois de mai, du mois de mars, pendant ces deux semaines, on ne fera pas de programme, inshallah. D'accord, pendant les deux vendredis, c'est-à-dire le vendredi prochain et le vendredi d'ensuite, on ne fera pas de programme. Et lorsque l'école reprend, je ne sais pas c'est quel jour, à la rentrée scolaire, le premier vendredi, là normalement, Inch'Allah, on reprend les cours de tafsir. Jazakumullah khair.